Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission proposée par Virginie Boer et Michel Clément. Nous continuons notre voyage au Moyen-Âge à la découverte des chevaux de selle. Rappelons qu'à cette époque, le cheval se distingue par sa fonction et non par sa race. Après avoir évoqué le destrier, le cheval de guerre, la semaine dernière, nous allons parler maintenant du palefroid, de la haquenée et du ronsin. Le cheval reste l'apanage de l'aristocratie et c'est donc un animal de grand prix. Comme l'écrit Jordanus Rufus, célèbre auteur d'un traité d'hippiatrie en 1252 au service de Frédéric II, je cite, « Aucun animal n'est plus noble que le cheval, puisque c'est par les chevaux que les princes, les grands et les chevaliers se distinguent du commun peuple. » Si les destriers peuvent atteindre des sommes considérables, il en est de même du palefroid et de la haquenée. Ces chevaux sont utilisés pour l'agrément, ils sont dits de parements. C'est ceux que l'on va monter à la chasse, l'activité aristocratique par excellence, pour les hommes comme pour les femmes, ainsi qu'au cours de parades et de cérémonies. Ces chevaux sont des entiers ou des juments, car au Moyen-Âge, tout cheval de qualité destiné à la selle des élites ne devait pas être castré. Cela l'aurait en effet privé de sa fougue et de son courage, qualité jugée essentielle à l'époque. Sans oublier que le prestige et le prix d'un cheval entier se fondaient également sur ses capacités en tant que reproducteur. Aucun chevalier du Moyen-Âge, par ailleurs, ne monterait de jument. Le mot palefroid apparaît au XIIe siècle et signifierait « cheval utilisé pour le voyage ». C'est un cheval qui a été dressé dès son plus jeune âge pour se déplacer à l'amble, une allure que nous avions évoquée dans notre émission sur les chevaux islandais et le tolt. Donc, à l'amble, le cheval déplace ses antérieurs et ses postérieurs en même temps, latéralement, ce qui rend son allure plus confortable. Les textes du XIVe siècle nous apportent beaucoup d'informations sur les chevaux à l'époque. Voici une description du cheval de Gaston IV, comte de Foix, qui participa à une chevauchée dans la ville de Tours en 1468 aux côtés du roi Louis XI, des princes et des seigneurs. Le comte apparut, je cite, « sur un bel et puissant coursier andalousien nommé la Dame, lequel coursier estoie de poils clairs, baie pommelée, au crin blond et à la queue blanche jusqu'à terre, et se marchoit le dit coursier haut et légier, tant fièrement, donnant du pied jusqu'à la poitrine et portant sa petite teste si beau qu'il sembla que le dit cheval ne fût fait que pour regarder. » La plupart de ces chevaux si spectaculaires sont importés. Ils viennent de Sicile, des Pouilles en Italie ou d'Andalousie et sont choisis pour être admirés au cours des parades en ville. Les haquenées comme les palefrois sont sélectionnés pour leur capacité à aller à l'amble. Au XIe siècle, dans son traité, Guillaume de Villiers écrit « Cheval qui a les jarrets et les hanches estendues ou hanches courtes doit bien ambler. » En Europe, l'amble et la haquenée vont de pair. Les dames du Moyen-Âge montaient ces chevaux qui leur permettaient de se déplacer rapidement et en douceur. Le compte des dépenses et recettes pour la période 1367-1370 de Charles II, roi de Navarre, signale l'achat de 4 haquenées dont l'une était destinée à la reine Jeanne de France. En 1408, le marchand de chevaux Richard de Cologne livre une haquenée du prix de 90 écus à la duchesse de Bourgogne. En 1436, l'écurie d'Isabelle de Portugal, épouse de Philippe le Bon, comprenait 30 montures, dont autant de haquenées que de chevaux de chariot. Car monter à cheval n'est pas réservé aux hommes. Il semble que jusqu'au XIVe siècle, les femmes aient monté à califourchon. Nous en connaissons deux exemples célèbres, Jeanne d'Arc au XVe siècle et Mathilde l'Empereuse au XIIe siècle, qui ont été des femmes guerrières. Pourquoi alors ce changement de manière de monter? Il semble que cela soit par pudeur ou par coquetterie, car la monte en Amazone permettait aux femmes de la noblesse de porter de belles robes. À partir du XIVe siècle, elles montent toutes en Amazone, assises sur la gauche de la selle, les deux jambes du même côté, les pieds reposant sur une petite planchette. Les selles destinées aux femmes comportaient 3 arçons contre 2 pour les hommes et s'appelaient les sambus. Les cavalières portent des souliers plats, tout fait exprès, et utilisent un fouet pour avoir une action sur le mouvement du cheval. Celui-ci est souvent tenu par un écuyer. Puis ensuite, on verra apparaître un étrier associé à la planchette, puis deux étriers. L'un est fixé au bas de la selle, l'autre est réglable selon les souhaits de la cavalière. Mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître la selle d'Amazone que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la selle à fourche, et ce, sous l'impulsion de la reine Marie de Médicis, qui était une cavalière téméraire. Si au Moyen-Âge, les femmes peuvent monter des palefrois, leur monture de prédilection est la haquenée, un cheval d'une grande douceur, dressé pour marcher également à l'amble. Le nom, qui apparaît dès le XIIIe siècle, est dérivé du village anglais Hackney, H-A-C-K-N-E-Y, situé près de Londres, où l'on élevait des chevaux. Il semblerait que ces chevaux ont d'abord été des chevaux d'archers, ayant participé aux guerres d'Écosse, mais également de seigneurs et de rois. Ainsi, on sait que le duc d'Alençon fit venir pour son usage personnel des haquenées, alors ça s'écrit en français H-A-Q-U-E-N-E-E-S, d'Angleterre. Quand 1487 Louis XI chargea son écuyer, je cite, d'acheter des haquenées au pays d'Angleterre. D'autres écrits témoignent par ailleurs que toutes les haquenées ne venaient pas des îles britanniques, mais qu'il existait des élevages en Europe, les rois offrant aux seigneurs de tels chevaux. Les chevaux importés d'Angleterre semblent être d'une grande majorité des juments. D'ailleurs, le mot français est féminin. Et si l'on regarde les noms des chevaux cités dans le compte de l'écurie du roi Louis XI en 1463-1464, les haquenées s'appellent l'amiral avec un E ou encore l'argentière, des noms féminins. Nous allons maintenant faire une petite pause et écouter La princesse et le troubadour, une chanson d'Hugo Frey.
Elle vivait dans un château du Moyen-Âge, entourée par les créneaux et la forêt. Les princes la demandaient en mariage. Un pauvre garçon chantait à ses côtés. Et la princesse on le sait bien, sont pour les rois. Elle devint une reine au regard triste, pleura pendant 3 semaines et l'oublia. C'est une histoire
Moyen-Âge, une écurie bien équipée doit posséder toutes sortes de montures en fonction des besoins et des envies de leurs propriétaires. À la fin du XVe siècle, il semble que les seigneurs et les nobles aient choisi de monter des haquenées plutôt que des destriers ou des palefrois, comme c'était le cas dans les parades jusqu'au siècle précédent. Les haquenées étaient également des montures recherchées par les ecclésiastiques. Mais attention, le cheval reflète le statut social du cavalier et celui-ci doit le respecter. Dans une ordonnance de 1265, sous le règne du roi Saint-Louis, il est précisé qu'un homme ne peut pas acheter un cheval dont la valeur excède son rang, car cela serait un signe de corruption. Par exemple, un écuyer ne peut pas monter un cheval allant à l'amble, car il symbolise l'aristocratie. Il faut qu'il se contente d'un trotteur. La Haquenée est décrite comme étant souvent blanche, mais ce n'était pas toujours le cas, comme en attestent les comptes de l'écurie de Charles VI. Sur les 40 Haquenées recensées, aucune n'est blanche, mais brun, baie, noir ou morel, c'est-à-dire un brun tirant vers le noir, on pourrait probablement dire baie brun. Le blanc, au Moyen-Âge, est associé à la beauté et à la souveraineté, tandis que le noir évoque la mort, mais aussi un signe d'élection ou de malédiction. Dans la légende du roi Arthur, Merlin l'Enchanteur est décrit comme montant, par exemple, un cheval noir. Le poil blanc marque souvent l'élégance qui incite à la parure. Les enluminures nous révèlent des chevaux blancs montés par des princes et des femmes, comme nous allons le voir à propos des enluminures des très riches sœurs du duc de Berry. Pour des raisons d'honneur, de prestige, de courtoisie et des raisons économiques, les chevaux d'élite étaient couramment exportés. Leur importance stratégique amène les rois et les princes à bannir leur exportation en dehors des frontières des royaumes. Par exemple, les chevaux noirs en Angleterre étaient essentiellement des chevaux d'importation, originaires des Flandres, probablement les ancêtres des poneys fels dont nous vous avons déjà parlé dans une émission précédente. L'élevage traditionnel consiste à prélever des chevaux sauvages ou des chevaux en semi-liberté vivant dans la forêt. Mais on commence à voir émerger des élevages dont les meilleurs sont ceux qui dépendent des monastères et des abbayes. Les haras privés privilégient très vraisemblablement des animaux adaptés aux loisirs, comme la course, la chasse, l'attelage, plutôt qu'à la guerre, en favorisant dans leur sélection des qualités telles que la rapidité et la fougue, aux dépens de l'endurance et de la bravoure. Ces chevaux de prestige et de parement possédaient un harnachement sophistiqué à la hauteur du rang de leurs cavaliers et cavalières. Les brides et les mors possèdent des ornementations serties dans le cuir. Les rênes et les colliers de chasse qui passent devant le poitrail, ainsi que les croupières, sont recouvertes de tissus brodés, comme on peut le voir par exemple sur les très belles miniatures qui forment le livre d'heures du duc de Berry, commandé en 1410 et achevé après la mort de son commanditaire en 1440. Dans le calendrier de ces très riches heures, où sont reproduites tous les mois de l'année, on peut s'arrêter sur deux enluminures en particulier, mai et août. Le premier représente la cavalcade organisée traditionnellement le 1er mai, où sont représentés des cavaliers et cavalières. L'identification des personnages a été rendue possible par les ornements sur les harnais des chevaux, des cercles d'or à 7 petits disques qui permettent d'identifier Jean de Bourbon et son épouse Marie de Berry. La miniature du mois d'août propose une scène de chasse aux faucons. 3 cavaliers y sont représentés, dont 2 portent chacun une dame en croupe. Le duc de Berry monte un cheval blanc, portant un harnachement brodé de tissu bleu et doré et un superbe tapis de selle rouge brodé d'or. Le duc monte en Amazone. Peut-être a-t-il choisi une Haquenée pour cette sortie ? Les œuvres littéraires du Moyen-Âge nous décrivent également les chevaux, que cela soit dans la chanson de Roland ou dans la geste du roi Arthur. Ce sont très souvent, dans ces livres-là, des destriers. Dans la chanson des Nibelungen, épopée médiévale germanique écrite au XIIIe siècle, le prince Siegfried et ses hommes sont présentés trottant sur leurs chevaux, ce qui suggère qu'ils montent des destriers, alors que les dames sont montées sur des palefrois d'un noir de jais dont les brides brillent de l'éclat des pierres précieuses, signe de richesse bien évidemment. Les chevaux du prince et de ses compagnons portent des carapaçons rouges et or, l'or étant le signe de la richesse par excellence, et le rouge et or, je le rappelle, sont également les couleurs du tapis de selle du cheval du duc de Berry, sur la miniature du mois d'août. Ces chevaux de prix sont l'objet de cadeaux entre riches seigneurs et souverains, et ils témoignent, par leur prestige, de celui qui les offre. Dans un registre tout à fait différent, nous allons parler brièvement du dernier cheval de selle, le Ronsin. C'est le cheval à tout faire. Il est la monture des écuyers, mais il porte également les armes et les bagages. Il est aussi le cheval des chevaliers sans fortune. Le Ronsin est donc un cheval de guerre qui pouvait être utilisé pour la poursuite rapide. Ce qui lui manque en prestige et en valeur militaire lui vaut d'être également la monture des ecclésiastiques. Il est aussi le cheval des paysans qui l'utilisent comme animal de bât ou attelé à une herse ou une charrue. Il l'élève sur des pâtures communes. Par ailleurs, il est fort probable qu'il pouvait être castré, contrairement aux chevaux dont nous avons parlé précédemment. À la fin du Moyen-Âge, Le palefroy était considéré comme la seule monture convenant à une femme issue de l'aristocratie, alors que la hakenée reste un cheval de rechange pour les hommes. Le rôle du cheval est bien établi. Les évolutions techniques sont là et les bases d'un élevage réfléchi aussi. La notion de race équine commence à émerger. Voilà, il reste beaucoup à dire sur cette période et nous n'avons fait qu'en effleurer la surface, en espérant que cela vous amènera à en vouloir en savoir davantage. Très bonne semaine à tous et rendez-vous dans 7 jours pour une nouvelle émission.